formation du projet Saint-Paul, parcours numéro 1, la première rencontre de Nietzsche à Jésus.
J'ai beaucoup de joie à vous accueillir tous ce soir pour cette première soirée. On n'a pas eu forcément beaucoup de temps pour l'annoncer et je me réjouis quand même de voir qu'on est quand même nombreux ce soir. Donc merci à vous d'être venus, merci d'être ici avec nous. Merci d'être indulgent aussi parce que c'est la première dans ce format et je crois que nous serons très heureux d'avoir aussi vos remarques après pour nous dire si voilà, s'il y a des choses qu'on peut améliorer pour les prochaines rencontres que nous aurons dans ce cadre-là. C'est la première rencontre. D'emblée, on pourrait se dire pourquoi de Nietzsche à Jésus? Pourquoi démarrer avec l'athéisme? D'autant plus que voilà, c'est pas forcément une logique chronologique. En tout cas, c'est probablement l'athéisme que nous rencontrons le plus souvent autour de nous, ici dans notre société française. Donc je crois que c'est un peu pour ça qu'on a choisi de commencer avec ce parcours de Nietzsche à Jésus. Alors je voudrais donner la parole à Mégane. Donc Mégane, Gilles l'a présentée tout à l'heure, elle est doctorante en philosophie politique à l'École normale supérieure. Et Mégane, on voudrait te demander tout d'abord de nous parler en fait de l'athéisme, de le définir, de nous dire où il prend ses racines, à partir de quand on a parlé de l'athéisme, comment est-ce qu'il est aussi dans notre environnement de tous les jours.
L'athéisme, c'est tellement diffus, il y a tellement qu'on pourrait dire là-dessus. Donc j'ai trois points, trois idées sur l'athéisme que je vais partager avec vous ce soir. Et après, je vais un peu discuter l'histoire du pensée qui mène à l'athéisme. On va discuter, je vais juste travailler avec quelques points de philosophes tels que Rousseau et de Nietzsche. Donc, première chose que j'ai constatée après avoir pensé un peu plus sur ce sujet, que en fait l'athéisme c'est pluriel. C'est-à-dire que le mot athée peut dire plusieurs choses selon la croyance et le style de vie de celui qui se réclame d'être athée. Et en fait, on peut un peu parler d'un athéisme plutôt confessionnel. Il y a des gens qui sont athées parce qu'ils ne croient pas dans leur Dieu de leur famille ou de leur communauté. Donc, souvent, on fait connaissance de quelqu'un et on se rend compte qu'il est athée, elle est athée. C'est-à-dire qu'ils sont des athées catholiques ou des athées protestantes, des athées musulmans, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en l'Église catholique, ils ne croient pas en Jésus, mais c'est seulement, ils ne croient pas seulement à ce Dieu qui les a enseignés. Et de ce point de vue-là, c'est souvent pour ces gens-là, c'est même une manière d'être toujours lié à leur communauté. Il y a cette espèce d'athéisme. Il y a aussi un athéisme comme projet philosophique ou projet plutôt politique. C'est un athéisme comme manière de refaire le soi, refaire le monde pour faire un monde plus beau, plus joli, plus illuminé. Et on peut dire aussi qu'il y a un athéisme confortable. Et il y a des gens qui sont athées parce qu'ils n'ont jamais vraiment y pensé. Donc déjà, ce n'est pas une chose, mais c'est quelque chose de multiple. Mais c'est aussi quelque chose qui vient avec une histoire. Donc la deuxième chose que je voudrais vous dire sur l'athéisme, c'est que c'est quelque chose de nouvel. De pouvoir s'appeler un athée et de vouloir dire par cela quelque chose de compréhensible n'existait pas il y a 500 ans. Et selon moi, c'est tout à fait possible que dans 500 ans, dans le futur, il n'existerait pas non plus, comme plein des autres croyances fausses. Avant 1500, il existait plusieurs possibilités de ne pas participer dans la culte communale dans l'Église catholique ou dans l'Église orthodoxe, mais d'être athée n'était pas entre eux. On pouvait être hérétique, ou mondaine, ou pécheur, mais d'entre ces choix-là, il n'avait rien tout à fait semblable à l'être athée de ces jours. Même si on ne voulait pas s'approcher de Dieu, ou on n'avait pas beaucoup de confiance en lui, on ne pouvait pas questionner son pouvoir et son être, parce qu'on lui voyait, on voyait Dieu et ses œuvres au travers de la nature, au travers des catastrophes, et aussi au travers le pouvoir ecclésiaste et le pouvoir politique, c'est-à-dire le roi. Le roi était aussi bien que le pape l'image de l'envoyé de Dieu sur la terre. Mais, et en plus, suivant les penseurs les plus proches à ce que l'on appellerait l'athéisme aujourd'hui, qui sont inspirés par le scepticisme de la philosophie ancienne, Michel de Montaigne par exemple, ils se voyaient tout à fait comme chrétiens orthodoxes parce que ils étaient très fidèles dans leur assistance à la messe ou à la culte. Donc il a fallu la veine longue de la modernité et de les formes de vie modernes, les formes d'association, les formes politiques, l'économie moderne, pour qu'on pouvait vraiment construire cet édifice conceptuel qui s'appelle l'athéisme. Okay. Donc, voilà. Et je voudrais dire aussi que l'athéisme que je décris maintenant, c'est aussi quelque chose qui est plutôt occidental. C'est quelque chose qui se relève de l'histoire de l'Ouest, surtout de l'Europe. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'athées quelque part d'autre, mais ça veut dire que, par exemple, que de se dire athée au Japon, par exemple, ça ne porterait pas la même force et donc ne signifierait pas exactement les mêmes choses que de dire athée ici, de se dire athée ici en France, et même d'ici en France aux États-Unis, de se dire athée, ça veut dire quelque chose d'un petit peu différent. Ok, mais pour mettre un peu d'espoir, hein, j'allais juste vous décrire un peu les changements de vie et les changements de politique. L'histoire de l'athéisme est intimement liée au développement de la modernité et surtout du développement d'un espace laïque public. Se dire athée, donc, est non seulement un moyen de dire « je crois pas en Dieu », mais aussi que j'appartiens seulement à l'espace public laïque, souvent avec le sous-entendu de dire « l'espace public laïque française ». Ou l'espace public laïque des bien-pensants ou des chez moi, des Américains illuminés. Voilà. Donc,
en France, je crois qu'on dirait plutôt éclairé qu'illuminé.
Éclairé. Pardon.
Merci. Parce que illuminé, justement, c'est plutôt religieux.
Ah, ok. Bon à savoir. Bon. Rappelons les bouleversements de l'ordre médiéval qui a lieu autour de 1530 après le Christ. Il y avait la primerie, la découverte de la Nouvelle Monde et le débat sur l'humanité des indigènes qui a suivi, le Reconquista, l'exposition des personnes d'origine juive et musulmane de l'Espagne, les thèses de Luther sur le port de Wittenberg. Il y avait Galilée et Copernicus. La consolidation de l'État français sous François Ier, les écrits de Rabelais, l'ouverture de l'Empire ottoman aux marchands européens et plein de guerres. Donc, autour de ce moment, c'était vraiment un moment de changement fort, pas seulement aux esprits des gens, il y en a tous appris un petit peu sur la Renaissance, sur le changement de regard sur le corps humain qu'on voit dans, dans l'art, par exemple. Mais aussi, c'était un changement de la vie de tous les jours. Tout d'un coup, il y avait des livres. En fait, on vendait et achetait de l'information, des idées. Dans un livre, déjà, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour aller très, très, très vite, le mélange des nouvelles idées de l'autorité. Donc, on se discutait, c'est quoi l'autorité ecclésiaste, c'est quoi d'être, d'être chrétien, en suivant le pape, est-ce qu'on suit le roi? Comme en Angleterre, par exemple, ils ont changé, et maintenant, c'est toujours en fait la reine, c'est l'autorité chrétienne et aussi politique. Donc, est-ce qu'on suit le pasteur? Est-ce qu'on suit nous-mêmes? Est-ce qu'on suit le Saint-Esprit dans nous-mêmes? Donc, tout ça était sous discussion. Et surtout, le pouvoir politique, est-ce que c'était mieux d'être démocratie, monarchie, une espèce de république, oligarchique, tout ça se disputait. Aussi, donc les mélanges, nouvelles idées de l'autorité, avec ça, lié avec des émotions très tendues de la réforme, très sensibles, et les cases, il y a surtout les cases éternelles, concurrence entre les princes européens pour la terre, pour la richesse, le pouvoir, tout ça aboutissait à la guerre, et un état de guerre qui durait 151 ans. Donc, et une guerre qui était à la fois internationale et civile. On avait la guerre de 30 ans, la guerre de religion ici en France. C'était un moment très, très difficile. Et donc, encore une fois, pour aller très, très vite, cet état de guerre ne finirait pas par l'intermédiaire de la traité de Westphalie. Donc, et le traité de Westphalie disait que de ce moment-là, il y aura des États avec des frontières fixes et qui étaient reconnus par tous les autres États. Et dans l'État, c'était le privilège, le travail du souverain de choisir la bonne religion pour les gens qui étaient dans cet état. Voilà. Donc, tout d'un coup, pas tout d'un coup, après 150 ans, la religion, c'était pas quelque chose, ou la foi, ou l'autorité, c'était pas quelque chose qui était derrière le pouvoir, qui était derrière la société, mais c'était quelque chose qui était sous, dessous la société, dessous le souverain temporel. Et en fait, ça a beaucoup changé des idées philosophiques sur ce que c'est de croire en Dieu, ce que c'est d'être religieux. Et la religion commençait à être quelque chose qui était plutôt lié à les liens sociaux et la moralité, l'éthique, que le fait de faire culte à un Dieu qui était plein de pouvoir et autres. Et ça se voit par exemple dans la philosophie de Kant. Pour lui, la religion était un support pour l'éthique. Donc, même dans les autres de ses œuvres, il a écrit premièrement sur la raison pure, et après la raison pratique qui était l'éthique pour lui, et après un peu sur la religion qui était un autre moyen d'assurer des faits d'être quelqu'un avec des bonnes morales, avec des bonnes éthiques, qui suivait des lois de la raison. Donc, et puisque c'était la raison, et après c'était Dieu pour lui c'était toujours un Dieu concis. Donc il parle dans le il a écrit un livre qui s'appelle « Le christianisme dans la limite de la raison seule ». Donc, un peu pour quand apercevoir de Dieu par la raison, mais seulement comme si on peut apercevoir Dieu. Tout était enfermé déjà dans la raison. Et après, il y avait un peu dans la même époque, c'était Rousseau. Pour lui aussi, la religion était quelque chose qui était vraiment quelque chose d'intérieur. Et plaqué au-dessous, il y avait les croyances politiques. Une religion purement civile et rationaliste menait très facilement à la violence. C'est même dans la définition des choses ici à Rousseau. La religion des citoyens, c'est quelque chose qui est très très bon. Voilà. Et on peut facilement voir comment les penseurs tels que Voltaire ou des autres révolutionnaires peuvent facilement penser, mais en fait c'est la raison seule qui est importante pour nous. C'est la raison seule qui peut nous guider dans la bonne morale, comment être des bons citoyens, puisque c'est la religion qui fait tous ces dégâts. Voilà, donc il y a cette espèce d'athéisme qui vient de cette mode de pensée et qui est basée sur être quelqu'un de très éclairé. Mais il y a aussi une autre espèce d'athéisme hein, qui est celui qui est plutôt lié au Nietzsche. Et je dirais plutôt que, en fait, il se rebelle, Nietzsche, contre cette espèce d'athéisme. L'athéisme qui. Ou même les croyances pas très vives des gens. La raison, c'est une faculté assez sec. Ça mène pas à l'amour, surtout pas. Et on voit, selon moi, Nietzsche était très. Et tout à fait, il avait tout à fait raison de se rebeller contre cette moyen d'être ensemble. Donc, les paroles de Nietzsche sur Dieu est mort sont très connues, mais souvent on ne les entend pas dans leur propre place dans ses écrits. Donc, il dit Dieu est mort, ça c'est du vieux savoir. Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux? Il est tellement évident pour lui que Dieu est mort, que Dieu n'existe plus. Mais il fait toujours un peu un deuil pour ce Dieu perdu, pour ce mode de vie de la foi qui est parti. Et il a le sentiment qu'en fait il est le seul. Mais pour lui, le fait que Dieu a pu mourir, que Dieu n'existe plus, veut dire qu'en fait il n'y avait pas de Dieu, un vrai Dieu. Mais quand même, il fait le Dieu, la deuil. Et donc tout son projet, c'est en fait de pouvoir se devenir un Dieu, de se recréer pour que. On vit sans cette culpabilité d'avoir tué Dieu, sans cette ressentiment. Chez Nietzsche aussi, c'est une pensée très très attirante en fait, surtout pour les gens qui se sont écrasés par la vie de tous les jours, par la bonne moralité. Mais Nietzsche lui-même a jamais vraiment su comment faire pour devenir un Dieu. Et c'est ça toute la recherche de son philosophie. Voulait vraiment être mieux que tout le monde. On voit par là un autre moyen d'être athée. Et je pense qu'ici en France, on se voit les deux très très mélangés souvent. Mais on voit aussi que l'athéisme, ça répond aux besoins, c'est un moyen de se répondre aux besoins spirituels. Donc, d'être athée ne peut pas dire qu'on n'a plus des besoins spirituels. C'est déjà un peu une croyance pour se soulager. C'est Jésus qui doit répondre à ça.
Merci Mégane. Avant de donner la parole à Gilles, je reprends ce que tu disais au début. Tu ouvrais en parlant de trois postures d'athéisme.
Oui.
Aujourd'hui, l'une qui est finalement une rupture par rapport à quelque chose qu'on a reçu.
Oui.
La deuxième qui est un projet philosophique, politique. Et puis la troisième qui est finalement une forme d'indifférence ou de paresse. Je voudrais juste, par rapport à ça, peut-être que tu donnes une précision aussi sur la différence qu'on fait entre athéisme et agnosticisme.
Ça dépend, mais surtout l'agnostique ne veut pas dire qu'il croit que Dieu n'existe pas. C'est une posture qui est plutôt ouverte d'un côté et d'autre côté est aussi fermé que l'athéisme. D'être agnostique veut dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas si Dieu existe ou non. Et il y a des agnostiques qui sont très heureux avec ça, qui juste, oui, je ne sais pas, mais ça ne m'intéresse pas trop. Et il y a des agnostiques qui sont vraiment en recherche de quelque chose, qui veut savoir s'il peut savoir. Mais c'est très récent l'agnosticisme, c'est plus récent que l'athéisme en fait. Ça date du 19e siècle.
Merci. Gilles, je me tourne vers toi pour avoir maintenant un peu le point de vue théologien. On a bien compris dans ce que Mégane disait que, voilà, que l'athéisme trouve ses racines un peu dans les grands bouleversements du 16e siècle, la Renaissance, etc. Donc finalement quelque chose de récent. Est-ce que dans la Bible, il y a des traces d'une forme d'athéisme? Quel regard, toi, tu portes comme théologien sur cette posture qu'on peut avoir dans la société d'un monde, enfin, une croyance d'un monde sans Dieu?
Alors, c'est vrai que ce que disait Mégane est valable aussi pour l'époque biblique et les peuples de la Bible. Quand elle nous dit que l'athéisme a à peine 500 ans, c'était vrai pour eux aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune conception de l'athéisme en fait à l'époque. L'enjeu c'était plutôt de savoir qui était le Dieu le plus fort. C'était plutôt de savoir si en gros Dieu était du côté du général qui avait la plus puissante armée. Il y avait plusieurs postures pour gérer les dieux des autres, c'était ça la question. La question n'était pas de dire que Dieu n'existait pas ou qu'il n'y avait pas de Dieu. Le premier des débats, ça a plutôt été le débat entre le polythéisme et le monothéisme. Parce que ça, passer de plein de dieux à un seul dieu, c'était déjà très révolutionnaire. Jusqu'alors, il y avait donc cette lutte que j'écrivais tout à l'heure. Il y avait deux attitudes qui, je trouve, sont assez intéressantes parce qu'elles correspondent à la façon dont nous gérons l'interculturalité aujourd'hui. On dit qu'en en matière de gestion de l'accueil de l'étranger, en Angleterre, on fait des parcs indiens, des parcs avec des Indonésiens, avec des Somaliens, etc. On fait des quartiers ghettos, mais on ne cherche pas forcément à intégrer. Et en France, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à ce que tout le monde soit le plus possible ensemble, bien que ça ait pu un peu changer. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est parce que dans la gestion des dieux des autres, il y avait un peu la même problématique. Et on avait notamment donc, l'attitude des Romains. Les Romains avaient une capacité qui était très étonnante, avec les Grecs d'ailleurs, c'est qu'ils intégraient les dieux des autres. Quand ils faisaient des conquêtes, eh bien, ils rajoutaient un temple de plus dans leur ville. Ça aboutit au fameux épisode dans les Actes des Apôtres où Paul va prêcher à Athènes et puis il y a tellement de temples, il y a tellement de dieux que Paul, pour parler aux gens d'Athènes, trouve cette stratégie de dire « Bon, ben, j'ai trouvé que vous aviez même un temple à un dieu inconnu. » Ils étaient très pragmatiques, ils disaient « Il y a sûrement des dieux qu'on ne connaît pas, donc il y a un temple à un dieu inconnu. Et ben moi, je connais ce dieu-là. » Et après ça, il parle de sa foi personnelle. Il y avait donc des stratégies d'intégration des dieux des autres. Et on faisait pas mal de compromis. Et puis d'autres stratégies qui étaient plus radicales, qui étaient d'extermination des dieux des autres. Donc ça dépendait des peuples. Tout ça, c'était dans cette préoccupation de gestion du polythéisme. Donc le peuple d'Israël a eu une attitude assez étonnante parce que, à la fois, il a été radicalement contre cette diversité religieuse en disant il n'y a qu'un Dieu et les autres c'est n'importe quoi, en disant le Dieu soleil, mais c'est n'importe quoi, c'est juste un gros lampadaire pour la journée. Le Dieu nuit, mais non, c'est juste un petit lampadaire pour la nuit. La lune n'est pas une déesse, le soleil n'est pas un dieu. Ils ont tous été créés par le Dieu unique. Et puis, il avait en même temps cette radicalité contre les dieux des autres. Et puis, quand même, on composait un peu avec ça, notamment en appelant, par exemple, le Dieu d'Israël, le Très-Haut. Le Très-Haut, ça veut dire celui qui est plus haut que les autres. Mais si on dit il y a un Dieu unique, il est plus haut que les autres, ça veut quand même dire qu'on est gêné par le fait de dire qu'il n'y a vraiment qu'un seul Dieu. De la même façon, un des noms qui a été donné au Dieu d'Israël, c'est un nom qui en hébreu est un nom pluriel, Elohim. Donc c'est bizarre d'appeler Dieu, c'est comme si nous on écrivait Dieu, D majuscule, I, E, U, puis on mettait un tout petit X à la fin pour dire qu'il était plus grand, mais en même temps il récupérait un peu tous les dieux des autres. Donc il y avait cette double attitude par rapport au Dieu des autres. Le deuxième élément qui pourrait quand même, cette fois-ci, ressembler à une forme d'athéisme ou une prémisse de l'athéisme, c'est quand même que dans la Bible, aussi bien dans le Premier que dans le Nouveau Testament, il y a l'idée que de temps en temps, Dieu est absent. Au début du ministère du prophète Samuel, on dit « la parole de Dieu était rare en ce temps-là ». Il y a beaucoup de psaumes qui disent « Mais Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Tu as déserté la terre ou quoi ?» Finalement, un Dieu qui serait à ce point loin de la terre qu'il en serait totalement détaché, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne devient pas un athéisme puisqu'il n'y a plus de relation entre l'humain et ce Dieu qui est trop lointain? Dans le même registre, les chrétiens qui avaient... les premiers juifs qui avaient accepté que Jésus-Christ soit fils de Dieu, quand ils voient Jésus mourir sur la croix, ils pensent que voilà, que c'est fini, que Dieu est mort, un peu comme Nietzsche, avant Nietzsche. Sauf qu'ils savent que trois jours après, enfin, ils vont découvrir que trois jours après, il est ressuscité, donc il n'est pas que mort. On ne peut pas appeler ça de l'athéisme, mais en tout cas, une perception de la distance assez importante entre l'être humain et puis Dieu. Ce sont tous ces éléments-là qui peuvent peut-être créer un prémisse à une compréhension de l'éloignement de Dieu. Mais il n'y a jamais l'idée de Dieu n'existe pas. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est quand même ce que les Écritures appellent la rébellion. Il y a certains passages qui disent que les croyants sont devenus les fils de la rébellion. Ça correspond aux attitudes que des croyants, tant dans la première alliance que dans la nouvelle alliance, des croyants qui feraient comme si Dieu n'existait pas. Qui sauraient que Dieu existe, mais dont notamment la façon de se comporter manifesterait qu'ils ne craignent pas vraiment ce Dieu-là. Par exemple, le prophète Ésaïe dit cela en expliquant aux Juifs qui jeûnaient beaucoup, qui pratiquaient beaucoup des jeûnes collectifs, en disant, Ésaïe dit de la part de Dieu, mais le jeûne qui me plairait, ça serait que vous brisiez toutes les chaînes d'injustice, que vous donniez à manger à celui qui a faim, etc., etc. Donc finalement, il y a toujours eu des porte-paroles qui ont dit de la part de Dieu, arrêtez de vivre comme si je n'étais pas là. Parce que finalement, peut-être qu'il y avait ce pressentiment de nombreux siècles avant l'athéisme que fondamentalement, cette espèce de pulsion de refus de Dieu, elle vient quand même malgré tout de l'être humain et de sa faiblesse, de sa difficulté à comprendre Dieu, à comprendre comment Dieu fonctionne. Cette prise en compte du décalage qu'il peut y avoir entre l'humain et Dieu, il réside quand même très très fort dans la théologie d'une personne qui a écrit trois livres, dont l'école pour son école a écrit trois livres, c'est Jean. Ce qu'on appelle l'école johannique, donc les personnes qui ont écrit l'évangile de Jean et les épîtres de Jean, ont quand même dit au moins à deux reprises un verset qui fait partie de la foi fondamentale des chrétiens, c'est « Personne n'a jamais vu Dieu ». Et dans ce « Personne n'a jamais vu Dieu » qui retentit deux fois, il y a quand même une porte qui est ouverte à ce que des personnes aient la liberté aussi de dire je ne crois pas. Il y a quand même en tout cas une possibilité qui est donnée peut-être pas à l'athéisme, à la négation de Dieu, mais à l'agnosticisme. Je ne sais pas trop en quoi je crois. Oui, je crois qu'il y a un Dieu, mais je n'ai pas d'idée très précise, j'en sais rien. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est un élément qui est devenu un élément fondamental du credo chrétien, tout simplement parce que dans la première alliance, dans l'alliance juive, si on voyait Dieu, c'est qu'on était mort. Donc la peur de Moïse au moment où Dieu s'approche de lui quand il va recevoir les 10 commandements, c'est de voir Dieu. Alors le texte dit, il a vu le dos de Dieu. Ça va. Au moins, il n'a pas vu Dieu face à face, donc c'est bon. Il n'est pas mort, mais il a vu le dos de Dieu. C'est quand même au moins une. Donc, dans ce personne n'a jamais vu Dieu, il y a une liberté qui fait qu'on n'est pas, en tout cas, mis dans une opposition un peu face à face et binaire entre un athéisme qui dirait Dieu est nulle part et une posture des croyants qui dirait Dieu est partout, Dieu est universel, Dieu se voit partout, Dieu est visible partout. Il y a quand même ce pas de la foi qui fait que on accepte ou on n'accepte pas qu'il y ait un Dieu. Et s'il y a un Dieu, c'est comme avec toute personne, s'il y a un Dieu, ce Dieu, je vais entrer en relation avec lui. Sinon, une fois de plus, je fais qu'il n'existe pas. Vous voyez cette pulsion de rébellion par rapport au Seigneur qui peut être accusatrice, qui peut dire Dieu n'existe pas, mais en même temps, paradoxalement, les croyants eux-mêmes disent personne n'a jamais vu Dieu, ou Jésus dira mon royaume ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il y a de l'espace qui est laissé.
Mégane tout à l'heure nous rappelait le credo de Nietzsche, du mort. Tu disais que voilà, il y a aussi une espèce de prémisse de cette affirmation dans la Bible. Je fais carrément là un grand pas de géant pour peut-être t'interroger sur ce qu'on appelle la théologie de la mort de Dieu.
Alors la théologie de la mort de Dieu, c'est quelque chose qui est arrivé au moment de mai 68 avec finalement une tentative des chrétiens de répondre au fameux Dieu est mort de Nietzsche. Vous savez qu'on raconte toujours que dans un de ces graffitis qui avait été fait sur Dieu est mort, signé Nietzsche, un certain nombre de personnes étaient venues et puis avaient écrit en dessous Nietzsche est mort, signé Dieu. La théologie de la mort de Dieu, c'est une façon pour les chrétiens, certains chrétiens autour de mai 68, d'essayer de réintégrer l'idée nietzschéenne de la mort de Dieu en se la réappropriant via la mort de Christ sur la croix. Et donc, c'est finalement une théologie, ce qu'on appelle une théologie de la croix, une théologie où on dit que ce qui rend le Dieu de Jésus-Christ visible, c'est quand Jésus meurt sur la croix. Ce que dit l'évangile de Marc, en mettant la mort de Jésus vraiment comme point central au niveau théologique. La pleine révélation du Dieu de Jésus-Christ, ce qui est complètement choquant, une vraie folie, c'est quand Jésus meurt sur la croix pour l'humanité. Et ces théologiens de la mort de Dieu, en fait, ont voulu reprendre cette théologie de la croix, mais malheureusement, à mon sens, ils ont quand même beaucoup oublié la complémentarité, parce qu'on est une théologie de la croix, c'est très intéressant, c'est très important, c'est une des valeurs fondamentales notamment de la piété protestante, en particulier luthérienne, mais pour tous les protestants. Mais cette théologie de la croix n'a pas de sens sans aussi le tombeau qui s'ouvre. Or, le problème, c'est que cette théologie de la mort de Dieu, dans les années 70, a cédé un petit peu à la tentation de vouloir rejoindre de tellement près les Nietzschéens et les athées de l'époque, que finalement a insisté que sur la mort de Jésus. Comme dirait l'apôtre Paul, s'il n'est pas ressuscité, tout le reste ne sert à rien. Que Jésus meure pour mourir, bon, ça en fait peut-être un héros à la Spartacus. Spartacus aussi a été crucifié, il était le leader d'une révolte d'esclaves. Il pourrait y avoir une église spartakienne. Mais il n'y a pas justement une église spartakienne aujourd'hui. Il y a une église chrétienne, mais il n'y a pas une église spartakienne. Parce que ce qui fait le cœur de cette théologie de la croix, c'est quand même qu'il y a un moment, il y a du vide. Je parlais tout à l'heure de l'absence, de Dieu qui n'est pas visible, de personne n'a jamais vu Dieu. Même le Christ ressuscité, il va être visible, mais les apôtres ne vont pas le reconnaître. La première fois qu'on va s'apercevoir qu'il est ressuscité, c'est parce que le tombeau va être vide. Mais si le tombeau est vide, on peut toujours se demander si on n'a pas volé le corps ou tenter une espèce de manipulation de l'opinion publique. Et voilà, on peut toujours contester. Je pense que dans ce désir de coller un petit peu à l'ambiance nietzschéenne, l'ambiance de soupçon, hein, vous savez que tous ces courants philosophiques issus de Marx, de Nietzsche et de Freud ont été appelés la philosophie du soupçon parce qu'elle remet en cause toutes les valeurs qui ont précédé dans la société et tout ce qui a été des points de repère dans la philosophie et dans la théologie jusqu'à présent. Ce désir de trop coller, de trop séduire, de trop être en proximité avec eux, ça a conduit à une théologie bancale qui serait aussi bancale que dans certains courants du protestantisme contemporain, il y a ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, un peu triomphaliste, où on vous dit « voilà, si vous êtes avec Jésus, vous n'avez plus de problème d'argent, vous n'avez plus de maladie, vous ne mourrez plus. » Si, vous mourrez, ça je vous l'assure, vous mourrez. La question c'est de savoir si vous mourrez pour toujours ou si vous mourrez jusqu'à la résurrection. Oui, vous aurez des maladies. La question c'est si vous voudrez présenter votre maladie au Seigneur et éventuellement être guéri. Mais vous voyez, une théologie dite de la gloire et qui oublie la croix de Christ, qui fait comme si Jésus n'avait pas été persécuté, comme s'il n'avait pas été mis à mort, comme s'il n'avait pas souffert, c'est une théologie qui est bancale. Voilà, on est dans cette tension à l'intérieur du christianisme de gérer à la fois, en même temps, et une théologie de la croix, de la mort de Dieu. Oui, pourquoi pas, on peut aller jusque-là, en tout cas de la mort de Christ, et aussi en même temps une théologie de la gloire qui est centrée sur la vie qui triomphe malgré tout.
Alors on l'a vu tout à l'heure avec Megan, donc que l'athéisme est quand même souvent un athéisme de la rupture. On est souvent, enfin, en général, quand on discute, hein, on s'aperçoit qu'on n'est pas athée comme ça en bloc, hein, on est athée d'un Dieu. La question qu'on peut se poser là maintenant, c'est de dire finalement quelle difficulté Jésus-Christ pose à ceux qui sont athées. Alors je dis difficulté, en même temps ça peut être aussi une difficulté positive, parce que peut-être justement il y a quelque chose chez Jésus-Christ qui est séduisant aussi pour les athées et qui du coup va devenir une difficulté supplémentaire. Mais ça peut être aussi pourquoi il dérange tant les athées.
Je ne sais pas. j'avais un prof à l'université. Il était très fasciné par moi parce qu'il savait que j'étais chrétien et il ne pouvait pas croire que moi était aussi chrétien. C'était impossible. Et on a commencé à parler et en fait, il m'a dit « Mais tu dois faire athée. » En fait, très très fâché contre Dieu. Au bout d'un moment, il m'a dit « Mais en fait, je lis l'évangile de Jean. Et ça me donne du paix. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne peux pas m'arrêter. » Et je ne savais pas quoi exactement dire, mais j'ai dit, bah, c'est super, il faut essayer avec une autre. J'ai dit, non, jamais. Mais, Donc, il y a un pouvoir là. Mais c'est très intéressant de voir, par exemple, Nietzsche, quand il décrit le christianisme, il déteste Jésus. Parce que Jésus est au centre de tout cette. La moralité des faibles qu'il déteste. Il pense que le christianisme, c'est la reine de moralité des faibles, ça mène à le ressentiment, ça mène à plus ou moins le fait de se sentir coupable tout le temps, mais il pense qu'en fait, on est meilleur parce qu'on se sent coupable, et voilà, et il déteste ça, ce qui est compréhensible. Mais quand il parle juste de Jésus comme ça, en train de parler sur quelque chose d'autre, il est très, en fait, il est fasciné par l'amour de Jésus. Et il veut dire que le vrai christianisme, c'est de vivre comme Jésus, pas de suivre une moralité, quelque chose comme ça. Mais il ne croit pas vraiment que c'est possible, au moins il n'a jamais vu quelqu'un qui a pu le faire. Donc il le met d'à côté, mais quand même, il y a quelque chose qui est très très attirant pour lui. Et surtout avec les philosophes de l'âge de lumière, ils sont toujours en train, ils étaient soit athées, soit déistes, ils étaient toujours en train de dire, mais. Une vraie religion, c'est une vraie religion, bien sûr, de Jésus, mais c'est toujours un Jésus très doux, un peu mou, pas très intéressant. C'est pas le Jésus des évangiles qui se fâchait des fois contre la justice, les gens qui n'aimaient pas. Voilà. Pour eux, c'était vraiment Jésus qui était gentil à tout le monde. Mais là aussi, tu vois que le fait de devoir se protéger contre toute la personnalité d'un homme et de se protéger contre toutes les complexités de ce que c'est de suivre Jésus, de le connaître, ça témoigne, pour moi au moins, à un pouvoir qui est dans le personnage, dans la figure de Jésus pour ces philosophes, quoi.
Ce qu'on peut rappeler, c'est que Nietzsche était fils de pasteur.
Oui.
Sérieusement entendu parler de Jésus. Et, mais ce que je dirais, moi, en tant que croyant, c'est que je pense que ce pourquoi Jésus fascine les athées, c'est parce que justement, en lui, on voit que Dieu peut réellement habiter dans un être humain. Et c'est ça qui est terrible. Parce que. Il est doux, mais sa douceur n'est pas mièvre. Quand il se met en colère, c'est de façon très juste, c'est une colère qui est saine, on dit une sainte colère. Il a de saintes colères. Quand il est triste, il assume d'être triste. Quand il est heureux, il assume d'être heureux. Il y a une espèce d'équilibre. Il n'est pas inaccessible. Il a l'air à peu près normal psychiquement. Il n'a pas l'air dérangé, alors que les chrétiens ont tous l'air un petit peu dérangés quand même. Alors, finalement, c'est rassurant de savoir que lui, il y est arrivé. Nous, on a du mal, on est en chemin pour y arriver, mais lui, il y est arrivé. Et je crois que c'est pour ça qu'un Nietzsche, en réalité, n'a pas de haine contre Jésus. Il a de la haine contre le Christ, que lui présente l'Église institutionnelle, paternaliste, doctrinale, moralisante, etc. Et il a raison, parce que je pense que si le Christ était venu au XIXe siècle, il aurait eu le même type d'attitude. Quand on voit la façon dont il insulte les religieux de son époque, qui sont d'une hypocrisie incroyable, eh bien Jésus, vraisemblablement, au XIXe siècle, aurait fait la même chose par rapport aux religieux chrétiens notamment, juifs aussi peut-être. Donc, à ce titre, y a même des gens qui ont déclaré que Nietzsche était le cinquième évangile. Alors, bon, je ne suis pas du tout nietzschéen pour ma part, mais je crois que ce que veulent dire les gens qui ont écrit ce livre, le professeur de philosophie qui a écrit ce livre, Nietzsche, le cinquième évangile, c'est de montrer que finalement Nietzsche avait voulu essayer de retrouver un Jésus qui soit épuré de tout le... de toute la bigoterie, de tous les aspects un peu pieux et avec, vous savez, qui dégouline de bougies, là. Il recherchait ce Jésus-là, ce Jésus authentique. Le problème, c'est que il le cherchait avec toute sa haine, sa rancune personnelle, et bon, j'en fais pas un rapport de cause à effet, mais les dernières années de Nietzsche ont quand même été 10 années de folie. Il était fou, il était prostré chez lui, il était complètement déliré en permanence. Malheureusement, il était conduit par une haine un petit peu fondamentale qui était en lui, qui était sûrement due à des tas de frustrations liées à la maltraitance de l'Église de son époque. Donc il ne s'agit pas de lui jeter la pierre, mais quand il fait ses reproches à Jésus, en fait, tout reproche qu'il fait à Jésus est en fait un reproche fait à l'Église. Et même s'il l'aurait sûrement nié à voix haute, il est dans une recherche d'un Jésus un peu pur qui a sûrement existé. Donc je crois que c'est pourquoi Jésus dérange peut-être les athées les plus intégristes, parce que tu disais tout à l'heure que l'athéisme pouvait être très religieux. Les athées intégristes peuvent être très gênés par Jésus, justement parce que on voit en lui la démesure de ce qu'une vie humaine peut contenir de l'Esprit de Dieu. C'est déroutant, c'est fascinant.
J'aimerais continuer longtemps comme ça, mais en fait, l'heure tourne et je pense qu'il faut qu'on respecte notre timing et vous laissez aussi la possibilité de réagir, de poser des questions, de demander des précisions. On a 20 minutes, un quart d'heure encore pour ça. Donc voilà, la parole est à vous. Le refus du sacré. Donc d'où vient cette réaction contre le sacré et comment peut-être aussi y répondre?
Moi, je dirais plutôt que le refus de sacré, c'est aussi le refus du pouvoir sur soi. C'est un refus de l'amour ou des choses sacrées. C'est, en même temps, ça veut dire que je ne veux pas que ça ait des prises sur moi. Et donc, surtout les politiques, c'est très lié dans notre idée laïque de ce que c'est d'être sacré. Souvent, être athée dans ce genre-là, et on est contre la vérité politique, on est contre tout. Et c'est surtout contre le pouvoir du sacré, c'est ça que j'allais dire. Oui.
Je crois qu'il y a le refus d'un sacré religieux, mais en fait, quand on regarde la façon dont on fonctionne aujourd'hui en France, dans un pays qui se veut indemne de toute trace de Dieu, c'est extrêmement sacralisant. Il y a une religiosité, une théâtralité, il y a une liturgie républicaine. Le 14 juillet, ça vaut une procession à Lourdes. Enfin, on fait avancer les trophées, on décore des gens, il y a des lieux qui sont des lieux sacrés, des lieux saints. Ça, c'est par rapport à la République, mais si on prend même notre système économique capitaliste, c'est hyper religieux. Je veux dire, il y a des saisons, il y a des grands temples. Je passais en voiture à côté de Vélizy 2 cette semaine. Vélizy 2, c'est fascinant. Vélizy 2, c'est le temple de Jérusalem pour un capitaliste pratiquant. On peut y aller faire des offrandes, on peut obtenir le bonheur là-bas, on peut être en rapport avec une transcendance, avec la joie profonde, l'apaisement de faire des sacrifices pour obtenir le bonheur. Et donc, bizarrement, dans des sociétés qui prétendent avoir tout désacralisé, il y a une résurgence du sacré qui est infinie. Quand on prend certains programmes télévisés qui se veulent de simples divertissements, mais il y a des liturgies qui sont travaillées telles que l'ont été les liturgies des églises dans les conciles. Enfin, c'est fascinant. Donc, il y a le discours « je refuse le sacré », puis après ça, il faut quand même voir la pratique. Je vois très très peu de gens qui refusent vraiment le sacré. Les vrais athées, je crois que ça n'existe pas en fait. La seule chose, c'est qu'ils refusent de dire que leur Dieu est un Dieu. Ils refusent de dire que l'argent est leur Dieu. Ils refusent de dire que l'identité française est leur Dieu. Mais ils ont un Dieu.
Effectivement, les vrais athées sont rares et je crois que c'est intéressant dans le dialogue qu'on peut avoir avec des gens qui nous questionnent, hein, parce que c'est vrai que souvent les athées nous questionnent sur notre foi, c'est justement d'essayer de voir de quel Dieu finalement ils sont devenus athées. Et il y a une conférence très très intéressante de Marie Balmary. Dans laquelle, enfin, qui s'intitule « Comment dire Dieu aujourd'hui ?», dans laquelle elle étudie une petite séquence des mots de Sartre, où il raconte comment il est devenu athée, et où elle-même montre justement de quel Dieu il est devenu athée, en fait, d'une image qu'il avait de Dieu, d'un Dieu qui était constamment en train de l'observer, de le juger, de le condamner, et qu'à un moment donné, il s'est affranchi de ce Dieu-là. Mais de ce Dieu-là, et pas forcément de tout Dieu.
Encore un fils de pasteur, Jean-Paul.
Ouais, oui. Je vais reformuler pour qu'on l'ait bien tous entendu. Quelle réponse pourrions-nous donner aujourd'hui à Nietzsche? Quel argument pourrions-nous lui proposer par rapport à sa démarche personnelle? Où est-ce qu'il s'est trompé?
Je pense que ce que j'allais dire des gens de Nietzsche, à Nietzsche ou aux gens qui me posent des questions similaires, c'est que t'es pas à toi de te faire comme tu veux. C'est-à-dire que oui, j'ai un autre ami et il me disait un jour, mais je ne pourrais jamais avoir une foi comme le tien. Et pour telle et telle raison, c'est pas possible pour moi. Et je lui ai dit, mais bah si. Et il a dit, bah non. Donc c'était pas très producteur comme conversation. Mais je lui ai dit, mais c'est parce que tu n'as pas envie de demander la foi. Tu penses que tu vas te faire toi-même, de toi-même, un croyant, toute seule? Ben, ça va jamais marcher. Et je pense que Nietzsche aussi, il y a un côté de lui, il veut vraiment soit se faire croyante, ou soit se faire heureux, ou soit se faire éclairer, illuminer. Donc il veut entrer dans le retour éternel de la vie, il veut entrer dans le volontaire pouvoir qui se montre au travers de la nature, mais c'est à lui de le faire. Et en fait, il était très malheureux les dernières années de sa vie. Et c'est ça que j'allais dire, que non, mais pourquoi penses-tu que c'est à toi de le faire?
Tu questionnes en fait le besoin que nous avons souvent de tout maîtriser,
oui.
Soit par la raison, soit par la volonté. Et finalement, il faut savoir aussi renverser cette
oui, de oui. De aller à la recherche, ça veut dire de demander des choses. Et souvent, c'est seulement qu'on se demande. Mais non.
Mais en même temps, on peut retourner aussi la question et dire, est-ce que le fait justement de vouloir soi-même tout maîtriser n'est pas déjà le signe qu'on a totalement évacué Dieu de notre vie?
Mais les chrétiens, moi je, en tant que chrétien, souvent je pense que c'est à moi d'être plus chrétien, plus je sais pas quoi. Oui, c'est une tentation pour tout le monde, mais je pense que pour Nietzsche, c'était sa vie, pas seulement une tentation.
Moi, je pense que si Nietzsche revenait, il faudrait lui faire lire tout ce qu'ont écrit les gens qui se sont revendiqués de lui. Et là, il verrait les terribles. Il verrait toutes les failles, finalement, de ce qu'il a fait, parce que. Je suis extrêmement reconnaissant à quelqu'un comme Michel Onfray, parce que je pense qu'il va y avoir de nombreuses personnes qui vont se convertir grâce à lui, parce que c'est tellement aberrant, c'est tellement... il manifeste une telle méconnaissance du christianisme que finalement, il produit l'inverse de ce qu'il a envie de produire, parce que c'est la vanité de Nietzsche, voilà, qui veut, en ayant refusé Dieu, en ayant refusé que Jésus soit Dieu, développe ce concept de surhomme et dit nous devons devenir des dieux, quoi encore, hein. Et on voit comment ça finit. Donc moi je lui ferai lire voilà ceux qui sont inspirés de lui, et puis plus sérieusement peut-être moi je l'inviterai à simplement continuer à s'intéresser à Jésus comme il s'y intéressait. Et je pense qu'au bout d'un moment, si on continue à s'intéresser à Jésus, il y a un moment où les résistances lâchent toutes seules. Parce que je crois que quand, dans un langage très théologique, les chrétiens disent que le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire dans notre langage culturel à nous, mais ça veut dire, ça signifie, enfin, c'est une formulation pour signifier que, comme je disais tout à l'heure, il y a une telle densité de la présence de Dieu en Jésus que si on s'intéresse à Jésus, si on s'approche de Jésus, si on réfléchit à Jésus, il y a un moment où voilà, toutes les forteresses s'écroulent et où il y a une espèce d'évidence. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si vous voyez le Fils, vous voyez son Père. Hein. Oui, Nietzsche aurait été assez triste en fait de ce qu'a produit ses écrits.
Peut-être aussi que si Nietzsche était là, nous aurions en tant que chrétiens à lui demander pardon aussi. Enfin, je pense que par rapport à ce que disait Mégane tout à l'heure, et puis Gilles aussi, on s'aperçoit finalement de la responsabilité des chrétiens dans un positionnement athée en fait. Et que malgré nous, chaque fois que nous cherchons à nous accaparer le pouvoir ou l'autorité du Seigneur, chaque fois qu'on exclut au lieu d'accueillir, toutes ces attitudes que nous faisons souvent en revendiquant notre foi chrétienne peuvent conduire vraiment des hommes et des femmes à se déclarer athées. Donc je crois que c'est bien de se le dire aussi dans nos relations aux personnes athées, d'avoir aussi cette humilité-là, de se dire, ben, finalement, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est peut-être aussi que nous, ou d'autres gens avant nous, voilà, ont une responsabilité.
Je crois que ça nous questionne aussi, si tu peux me permettre, sur le fait que, quand nous témoignons de notre foi, est-ce que nous témoignons de Dieu, ou est-ce que nous témoignons de l'Église, ou des Églises, ou est-ce que nous témoignons de nous? Et il faut qu'on soit conscient dans la parole qu'on laisse aux autres, que parfois, quand on se survalorise soi-même dans son témoignage, eh bien les gens, au bout d'un moment, ils nous regardent, effectivement, ils voient un peu la trace de Dieu, mais ils voient aussi tous les lieux qui restent manifestement des traces de l'absence de Dieu dans notre existence. Et puis, ça c'est quand on se met trop nous-mêmes en avant. Et quand on met trop en avant l'Église, eh bien, là encore, l'Église, elle a tellement de défauts, quelle que soit l'Église, hein, elle a tellement de défauts que, bien évidemment, on pense que c'est une deuxième crucifixion, quoi. Enfin, c'est deuxième fois Jésus qui est mis sur la croix. Quand on voit les chrétiens se bagarrer, quand on voit... C'est un tel contre-témoignage. Donc, qu'est-ce que nous disons dans l'Église, nous manifestons la présence de Dieu. Ça va être... il va falloir bien s'accrocher pour que ce soit véritable. Ou est-ce que nous disons, cherchons tous Jésus et là, il va se passer quelque chose. Je préfère la deuxième solution.
Il nous reste très peu de temps, mais peut-être une dernière question. Le rôle joué par la Révolution française dans le développement de l'athéisme.
Laissez parler les observateurs américains.
Bah oui. Est-ce qu'en coupant la tête du roi, on a aussi coupé la tête de Dieu?
Oui, mais la Révolution française était seulement possible en France un peu parce que déjà le roi était tellement identifié avec Dieu. Donc on peut dire aussi que le fait que le roi de France était plus ou moins Dieu pour son territoire, ça aussi a mené au athéisme. Donc c'est difficile à fixer le bon point, mais c'est vrai que cette constellation politique, disons purement politique, a produit des résultats spirituels. Je dirais, la France est un État très très centralisé. C'est un État avec une très forte conscience de sa culture universelle et de sa mission civilisatrice autrefois. Et tout ça, ça relève de la Révolution française et surtout de l'importance de la raison contre Dieu, contre le roi, pour la Révolution. Donc, c'est pas que l'athéisme, c'est aussi la culture politique française qui est affectée.
Merci. Je voudrais vous remercier tous les uns les autres d'être venus, d'avoir été si religieusement attentifs. Merci aussi à Mégane et à Gilles. Notre prochaine rencontre portera non plus sur l'athéisme, mais sur le théisme de Dieu à Jésus-Christ. Voilà, regardez dans les temps qui viennent le site internet saintpaul.pro. Voilà, où on va essayer de rapidement mettre un maximum d'informations. Merci à vous et bon retour.